La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ce matin dans ce lieu de culte. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent par Internet. Et bon courage à ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre parce qu'ils sont dans les voitures ce matin, peut-être dans les embouteillages de ce chassé-croisé du 15 août. Nous sommes réunis ce matin ici pour louer Dieu et pour vivre ensemble un moment de paix et de réflexion, un moment de coupure dans le temps que nous vivons habituellement de façon profane. Ici, nous pouvons nous mettre à l'écoute d'une parole, nous mettre à l'écoute du Seigneur et lui consacrer un temps de notre vie plein et entier. Je vous invite pour entrer dans ce temps à chanter le premier répond qui se trouve à l'entrée des psautiers français. Vous avez toute la liturgie avec les réponds de la liturgie. Et c'est Alexandre Korovitch qui est avec nous ce matin. Bonjour Alexandre. Nous louons le Seigneur avec ce texte issu du témoin invisible, devant le témoin invisible. Je vous partage cette louange de Charles Wagner. Dieu se fait homme. Je ne peux te penser qu'avec des moyens humains, lors même que je ne te verrai pas en esprit, sous une forme mortelle et semblable à celle de mes frères. Et si tu veux t'approcher de moi, ne faut-il pas que tu descendes au sentier de la terre ? Pour me parler, ne dois-tu pas employer les termes de ma langue maternelle ? Autrement, qui te comprendrait ? Puisque l'homme est un muet et un sourd pour son propre semblable, s'il n'en saisit pas le langage. C'est pour cela que tu t'es fait homme et que tu as marché parmi nous sous les traits du Fils de l'homme. En somme, depuis que tu nous cherches, tu emploies les mêmes moyens, tu viens à nous. Tu es venu vers nous car par les créations matérielles, les splendeurs et la magnificence des cieux. Tu es venu à nous dans les autres où les âmes se dégagent des ombres, dans les joies et les peines, dans les liens de la vie familiale, dans la personne des justes qui sont nos guides et nos frères aînés. Tu as marché, lutté, souffert et chanté parmi nous. À travers nos jours éphémères a transparu ton sourire qui demeure et tu nous as fait boire aux coupes d'ici-bas, qu'elles soient douces ou amères, un breuvage où fermente un espoir éternel. Tout être qui se donne fait un geste divin. À travers la poussière des frères et des martyrs tombés pour les causes justes, brillent des rayons d'or. Dans chaque regard d'enfant, tu as mis ta promesse, et les vaincus du droit t'attendent dans leur tombeau. Sois béni, Dieu qui te fait homme pour être plus près de nous, comme dans les épis mûris, sous ses caresses, ton soleil se fait pain afin de nous nourrir. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 138, les strophes 1, 2 et 3, dans le psautier.
Thank you.
L'Éternel parle dans le livre du prophète Amos et il dit à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ainsi la foi n'est pas le moment où l'on trouve, le moment où l'on sait Dieu, mais le moment où on le cherche sans cesse. Et c'est notre vie même de croyant qui est cette recherche. Que ce chemin soit le nôtre, ensemble, je vous invite à chanter. Nous nous présentons devant Dieu avec cette prière d'André Gide. Seigneur, ce n'est pas parce que l'on m'a dit que vous étiez le Fils de Dieu que j'écoute votre parole. Mais votre parole est belle au-dessus de toute parole humaine et c'est à cela que je reconnais que vous êtes le Fils de Dieu. Par quelle absurde modestie, par quelle humilité, quelle honte ai-je jusqu'aujourd'hui différé d'écrire ce qui depuis tant d'années s'impatiente en moi? J'attendais toujours plus de sagesse, de lecture, de connaissance, comme si la sagesse des hommes n'était pas folie devant Dieu. Seigneur, je viens à vous comme un enfant, comme l'enfant que vous voulez que je devienne, comme l'enfant que je deviens, comme l'enfant que devient celui qui s'abandonne à vous. Je résigne tout ce qui faisait mon orgueil et qui, près de vous, ferait ma honte. J'écoute et vous soumets mon cœur. Le Seigneur ne tarit pas de bonté pour nous et je vous invite à vous lever pour recevoir sa grâce renouvelée sans cesse. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. confessons notre foi avec les mots d'un homme de silence, un trappiste. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même et si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire que je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdue et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai nulle crainte car tu es toujours avec moi et jamais tu ne me laisseras seule dans le péril. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, nous ouvrons le quatrième volet de cette traversée à travers diverses formes d'alliances et nous parlerons de l'alliance humaniste. Je l'ai intitulé comme cela parce qu'il me semblait que c'était juste d'en parler. Et dans le prophète Ésaïe, au chapitre 9, versets 1 à 6, nous pouvons lire « Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse. » Tu l'as comblé de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur Adonai des armées. » Je vous invite à chanter le cantique 170 dans les louanges, 178, pardon, dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 6. Nous prions ensemble. Éternel, éclaire-nous. Permets que nous puissions être justes dans notre parole pour rendre compte de ta parole. Permets que nous soyons clairvoyants dans les témoignages anciens qui nous sont parvenus avec l'histoire d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants qui vivaient d'autres réalités et qui rejoignent souvent les nôtres. Éclaire notre cœur et permet que nous puissions comprendre quelle est notre place dans ce monde. Amen. Dans les ténèbres du monde, dans les temps troublés de la guerre, c'est un enfant, un petit homme, que le livre du prophète Ésaïe nous présente ici comme figure du salut. Ce texte que traditionnellement nous relisons, au moins pour une partie, comme une citation dans le Nouveau Testament, au moment de Noël, en assimilant Jésus au Fils providentiel, à cet enfant qui arrive et qui apporte son règne d'équité et de justice, n'est pas clairement identifié dans le livre prophétique. Mais le contexte dans lequel ce passage se situe est connu. Ésaïe développe toute une partie qu'on appelle, dans le grand livre d'Ésaïe, il consacre une partie à ce qu'on appelle le livre de l'Emmanuel, le livre de Dieu avec nous. Dans un contexte de guerre, les guerres syro-éphraïmites, on déploie tout un imaginaire de la venue d'un enfant qui se présente comme sauveur. Ces guerres sont des conflits qui ont opposé le royaume du nord, la Samarie en Israël, et le royaume du sud, le royaume de Juda, avant que les Assyriens ne dominent complètement le royaume du nord. Au sud, il semble bien qu'un enfant soit monté sur le trône de David. Les historiens ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'Ézéchias. On lui donne des insignes royaux ainsi que 4 titres transcendants. Ces titres évoquent la tradition égyptienne des couronnements importés au temps du roi David et qui consiste à attribuer au souverain une titulature prestigieuse. Conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Cet enfant humain ressemble à un dieu. En lui sont placées toutes les promesses dont le peuple attend l'accomplissement. Comment pourrait-on prêter à l'homme tant de vertus sans remettre en question la place de Dieu ici? L'homme pourrait-il prendre la place de Dieu et faire le salut du peuple à sa place? C'est le problème de ce que nous appelons l'humanisme. Cette aspiration à mettre l'humain au centre d'un système de pensée où se tenait Dieu auparavant pose le problème de la liberté humaine face à la providence divine. Quelle est la part que l'homme doit faire et la part qu'il laisse à Dieu? Pour plus de liberté, contre la superstition, contre le traditionnalisme et le conservatisme, cette révolution copernicienne semble attribuer à l'homme toutes les vertus qu'on attribuait à Dieu, comme si l'homme pouvait toutes les assumer et changer à lui seul la marche de l'histoire. Quand on prononce le terme d'humanisme, une expression vient à l'esprit, en tout cas elle m'est venue immédiatement à l'esprit, et je vous la partage, l'homme est la mesure de toute chose. On a dans la tête les images comme l'homme de Vitruve. Cette affirmation est attribuée à Protagoras, le sophiste grec qui donnera son nom à un dialogue que Platon écrit pour critiquer ses idées. Dans l'ouvrage collectif « Adam et l'astragale », Essai d'anthropologie et d'histoire sur les limites de l'humain, Thomas Golsen consacre son article à cette expression de Protagoras et à l'humanisme de la Renaissance. Pour montrer que cette Renaissance peuplée d'humanistes est un mythe, non pas un mensonge, il ne s'agit pas de dire que ça n'aurait pas existé ou que ce soit complètement inventé, mais c'est un mythe, un imaginaire construit sur lequel va pouvoir se fonder une morale des vertus humaines. Étrangement, au XVe et au XVIe siècle, ceux que nous appelons les humanistes ne citent que très rarement cette phrase de Protagoras. On la trouve chez Léon Battista Alberti, l'architecte florentin, et chez Nicolas de Cuse, le cardinal mystique allemand. Les deux en font une utilisation très différente, puisque l'un est un humaniste civique de Florence qui présente une certaine modernité et qui colle assez bien avec l'image que nous avons de l'humanisme et de la Renaissance. Et l'autre, en revanche, est un théologien et mathématicien qui s'occupe davantage de mettre en mathématiques la présence de Dieu et l'infini. De plus, la citation de Protagoras est toujours tronquée quand on la raconte, puisque, à l'origine, l'homme est la mesure de toute chose, se continue par « pour les choses qui sont de leur existence et pour celles qui ne sont pas de leur non-existence ». Ce qui veut dire que les choses n'existent que du point de vue de l'homme et que c'est l'homme qui détermine si ces choses sont bonnes ou mauvaises pour lui. Ce qui relativise beaucoup le propos, il s'agit plus d'une perception des choses par l'homme, d'un point de vue particulier, que d'une domination de l'homme sur ces choses. Le spécialiste des philosophes de la Renaissance, Pierre Magnard, prévient dans sa leçon inaugurale au Collège de France « Ne parlons pas trop tôt d'humanisme. Il n'est pas vrai qu'au XVe siècle, les arts et les sciences aient été perçus généralement comme la condition du progrès de l'humanité. » Tout cela est beaucoup plus difficile et complexe que nous le croyons et que nous le disons aujourd'hui, peut-être, quand nous parlons de la Renaissance. Mais le mythe d'une humanité éclairée tout entière par des progrès de la raison et dominant le monde par les sciences est utile et flatteur pour un vieux continent qui se pense seul porteur d'intelligence au milieu d'un monde barbare et sauvage comme on le présentait alors. Regarder le monde du point de vue humain nécessitait donc qu'on redéfinisse ce qu'est un homme. Montaigne, dans ses essais, montre à quel point cette définition de l'homme par une civilisation donnée comme la seule possible a fait le malheur de nombreux peuples. Dans son livre L'humanité des autres, Ali Ben Marlouf suit Montaigne dans sa démarche anthropologique et sa critique de l'humanisme qui permet toutes les exactions contre les autres, ceux à qui on ne reconnaît pas l'humanité parce qu'ils ne répondent pas aux critères d'un humanisme étriqué, qui confond une civilisation donnée avec la civilisation. Montaigne regarde les peuples de ce qu'on appelle alors le nouveau monde, comme des habitants non pas de monde nouveau, car il est bien conscient que ces mondes existaient avant lui, mais des habitants d'autres mondes, qui n'ont pas attendu qu'on les envahisse, qu'on les asservisse ou qu'on les christianise pour exister et avoir une histoire, leur civilisation et leur culture. N'oublions pas que ces humanistes qui apportent la civilisation aux peuples qu'ils considèrent comme à peine humains se battent aussi entre eux pour des raisons théologiques et se comportent parfois avec une cruauté énorme. Et que la guerre des religions entre protestants et catholiques s'exporte dans ce nouveau monde aussi. On tue des sauvages et des huguenots de la même façon. Et l'on accuse les autochtones ou les catholiques de cannibalisme de la même manière. Tout cela devient très confus. On est toujours le sauvage de l'autre, en quelque sorte. Toutes ces cruautés à l'égard de ceux qu'on appelle les cannibales, les primitifs, les sauvages, bref, les autres qu'on ne connaît si mal, sont-elles bien raisonnables? Le terme humanisme apparaît au XVIIIe siècle, en fait. Les gens de la Renaissance ne l'auraient pas utilisé. Et l'on comprend que les philosophes des Lumières aient eu besoin d'une telle notion au moment des révolutions, où ils prônaient une philosophie critique et le triomphe de la raison sur l'obscurantisme. Mais là encore, comment regarder la traite d'êtres humains dans le commerce triangulaire et lire en même temps les plus belles pages philosophiques sur la liberté ? Était-ce si difficile de regarder les autres, ceux qui sont si différents et pourtant si proches, avec la plus élémentaire empathie? Était-ce donc impossible? De nos jours, l'humanisme est un mot mal défini qui consiste à regrouper toutes les vertus de l'homme qui combat le mal et fait le bien, et qui considère les autres êtres humains comme des frères. Mais c'est au nom de cet humanisme des vertus que les puissances européennes ont voulu apporter leur conception du bien et du mal et définir ce que devait être un homme. C'est ainsi que les pires traitements des hommes par d'autres hommes ont été légitimés par l'idée que l'humanité se définissait selon des valeurs parfois innées et éternelles et en tout cas voulues universelles et qui fondaient la civilisation européenne. Parler aujourd'hui d'une possible alliance humaniste est, on l'a vu, plus que périlleux. Les valeurs et les idées déclarées universelles ont eu des conséquences terribles sur la vie, la liberté, la paix de peuples qui avaient leur propre histoire, ni meilleure ni pire que celle des Européens humanistes, mais différente, et parfois très semblable et on l'ignorait. Dans une pensée théologique libérale, il nous faut repenser l'humanité sans la dogmatique morale qui lui est attachée, et qui déterminerait avant toute chose ce qui est bien ou mal pour l'autre. Il nous faut repenser cet humanisme autrement, avec un scepticisme de méthode, qui permet, comme dans la sagesse de Montaigne, lui qui se fit ethnologue, de savoir qu'on ne connaît jamais complètement l'autre. Je dis les autres plutôt que l'autre, parce que l'autre, avec une majuscule ou pas, a servi aussi à rendre abstrait celui qu'on rencontre et à l'enfermer avant même de le connaître dans nos représentations idéales. L'humain est divers, infiniment divers, et il ne correspond pas à ce que l'on attend. Alors comment nouer une alliance humaniste avec les autres ? Où est la place de Dieu dans cette alliance? Dira-t-on qu'elle se noue entre les hommes, cette alliance, et Dieu? Ou bien entre les hommes sans Dieu? Quel sera l'équilibre qui permettra de donner une limite à la puissance humaine tout en lui permettant d'inventer son avenir librement? On le voit, humanisme et liberté ont des chemins communs. Mais pour que ces chemins ne soient pas creusés violemment à coups de valeur, si j'ose dire, dans la culture des autres, il faut alors redéfinir l'humanisme comme un combat contre les valeurs soi-disant universelles, qui s'exportèrent jadis pour le plus grand malheur de ceux qui les reçurent sous forme de coups de fouet et de supplices cruels. Dans sa conférence « L'existentialisme est un humanisme », Jean-Paul Sartre répond aux objections que les marxistes d'un côté et les chrétiens de l'autre font à la pensée existentialiste. Sartre explique que nous inventons les valeurs, qu'elles ne préexistent pas à nos vies. Il écrit « Avant que vous ne viviez, la vie, elle, n'est rien, mais c'est à vous de lui donner un sens. Et la valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisissez. Par là, vous voyez qu'il y a possibilité de créer une communauté humaine. Ainsi, l'homme est toujours à faire, dit-il. L'existentialisme est un humanisme parce que, avec ses choix, l'homme se crée. Dans le dépassement de lui-même, en cherchant hors de lui un but particulier, l'homme se réalise comme humain. Il ne s'agit pas ici de dire que la fin de l'humanisme, ce que l'on recherche ultimement, c'est l'homme, mais plutôt d'abandonner cette recherche pour aller hors de l'homme et aller voir l'autre ailleurs, et poursuivre un but particulier, une liberté particulière. On le voit ici, l'humanisme de Sartre n'a pas besoin de Dieu, car même si pour lui Dieu existait, cela ne changerait rien. Il faudrait que l'homme se retrouve lui-même et se persuade que rien ne pourra le sauver de lui-même, que cette façon de sortir de lui. Dans cette doctrine d'action où l'être humain fait ses propres choix toujours librement et est absolument responsable, on a peine à retrouver l'humanité asservie dont nous parlions plus haut. La liberté dont parle Sartre est belle et magnifique à mettre devant nous, mais elle est bien difficile à accomplir en réalité dans beaucoup de cas. On a peine à retrouver aussi l'humanité fragile, l'humanité plongée dans l'incapacité par le fait de la maladie ou du handicap. Quel choix faire quand on est empêché de toutes parts? L'humanité enfant qui voit les autres décider pour lui, soumise à la volonté des autres. Mais il n'empêche que cette liberté de principe qu'il propose et cette doctrine de l'action n'est pas antinomique avec un certain christianisme. En effet, dire qu'avec ou sans Dieu cela ne change rien est peut-être provocateur, mais que l'on soit croyant ou non, la vérité est que c'est à chacun d'agir et de faire advenir ce que Christ appelle le royaume de Dieu dès qu'il le peut, et qu'un sartrien appelle peut-être cette communauté humaine où les hommes seraient véritablement libres. Comment faire alliance, sinon entre hommes libres? Considérer les êtres humains libres, quel que soit leur but, c'est croire qu'une alliance est toujours possible entre eux, à condition qu'ils se portent hors d'eux-mêmes, qu'ils puissent le faire dans ce délaissement sartrien, et qu'ils choisissent d'aller vers les autres. Nous l'avons vu, l'humanisme est un mythe basé sur la puissance de certains hommes sur le monde. Mais le christianisme a peut-être autre chose à apporter qu'une pensée où l'homme serait meilleur dès lors qu'il est chrétien, qu'il est plus civilisé, qu'il est plus grand que les autres. Peut-être pourrions-nous sortir de cette pensée hiérarchique qui cherche qui est le plus humain parmi les humains, et nous demander quel humain la foi nous montre-t-elle dans la personne de Jésus. Peut-être que les véritables disciples du Christ pourraient se reconnaître en un homme qui, devant le désir de puissance qui l'anime et le tente, choisit de rester à l'écoute d'une parole divine qui lui rappelle qu'il est humain et qui lui donne sa juste place. Peut-être que notre véritable humanité est figurée par cet homme au milieu du désert, méditant ses choix, entouré des anges et des bêtes sauvages, comme dans la tentation du Christ. Il peut choisir d'être comme ces anges qui portent la bonne nouvelle, ou comme ces bêtes sauvages. Cette humanité entre la transcendance des anges et la férocité des bêtes naît comme ce petit enfant dont parle le prophète Ésaïe. Il naît dans le bruit des bottes et près des manteaux roulés dans le sang. Il naît comme tout humain dans la fragilité d'une promesse que ceux qui l'accueillent ne pourront peut-être pas tenir. Promesse de paix, promesse de justice et d'équité. Cet enfant les oblige. Cet enfant a tout à inventer, tout à vivre. C'est cet enfant que nous avons tous été avant que d'être homme, comme le dit Descartes. C'est cet enfant qui fonde le véritable universalisme de l'humanisme. Non pas qu'il faille infantiliser les autres pour faire alliance avec eux, ça, nous l'avons déjà fait par le passé dans notre histoire. Mais plutôt se rappeler que chacun, nous y compris, quand nous regardons l'autre, nous avons été enfants. Et que nous sommes comme tout être humain entre naissance et mort, tous ensemble. Les témoins de la Bible usent à plusieurs endroits de l'image de l'enfant pour nous faire toucher du doigt notre humanité. Une vie donnée où tout est à faire. Le Dieu de Jésus-Christ se soucie de l'homme, le libérant ainsi de lui-même, comme pour provoquer en lui ce délaissement, ce dessaisissement dont parle Sartre. L'être humain peut, dans la grâce d'un Dieu qui se soucie de lui et le libère ainsi, faire alliance en toute sécurité, en toute audace aussi, avec les autres, en allant hors de lui-même, vers eux, pour reconstruire sans cesse la communauté des humains. Amen. Je vous invite à chanter le psaume 107, les strophes 1, 2, 3 et 4.
Thank you.
Voilà, c'est maintenant le moment de partager quelques offrandes et c'est Denis qui va partager avec nous, qui fait partie du conseil presbytéral de l'Église, qui va partager avec nous ses annonces. Merci Denis.
Chers frères et sœurs, bonjour. Merci Béatrice pour cette prédication sur l'alliance entre les femmes et les hommes libres qui sont prêts à aller vers les autres. Merci aussi donc pour ces quatre prédications, ces réflexions sur les alliances libérales, l'alliance animale, l'alliance sociale, l'alliance humaniste. Et la première fois, il y a quatre...
L'alliance sociale, l'alliance animale, l'alliance humaniste.
Et celle d'il y a quatre...
L'alliance écologique.
Et l'alliance écologique, bien sûr. Merci beaucoup. Merci aussi à Alexandre, à l'orgue, qui nous a accompagnés. Alexandre Korovitch est aussi le chef de chœur de l'Oratoire du Louvre. Et le chœur de l'Oratoire du Louvre recommencera ses répétitions en septembre. Et il cherche notamment des ténors et des basses. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez lui en parler à la fin du culte ou aussi vous adresser à la présidente de l'oratoire, du chœur de l'Oratoire du Louvre, Madame Abriba, qui est ici présente. Ils se feront une joie de vous informer là-dessus. Merci aussi à Meu et à son mari Gérard, monsieur et madame Delin, qui ont préparé le temple pour qu'il soit beau aujourd'hui pour ce culte. À présent, c'est le moment donc des annonces. Cette semaine, jeudi à 12h30, pour une heure, il y aura le partage biblique.
Alors non, c'est la pause spirituelle.
La pause spirituelle, c'est un partage sur un texte biblique en toute décontraction et un moment de prière qui est très agréable pour ceux qui ont un moment entre midi et deux, enfin midi et demi et une heure et demie, s'ils travaillent ou s'ils ne travaillent pas aussi, bien évidemment. Dimanche prochain...
C'est Agnès qui sera de retour. Jeudi, vous retrouverez votre pasteur de la pause spirituelle. Voilà.
Oui, tout à fait. Agnès sera de retour de vacances dès jeudi et dimanche prochain aussi. Le culte sera sur la femme intermédiaire entre le divin et l'humain, je crois. Oui. Et ce sera sur un livre, le livre de Joël 3, versets 1 à 2, si vous voulez déjà préparer la lecture. À présent, c'est le moment de l'offrande. Donc, si vous êtes sur Internet, vous pouvez appuyer sur le bouton le don joyeux. Et sinon, nous vous proposons de participer à présent aux finances du temple, de l'Oratoire du Louvre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Et je voulais simplement signaler que dans toute ma prédication, je n'ai parlé que de l'homme, mais évidemment... C'était le terme tout à fait générique pour dire l'être humain, et ça comprenait aussi la moitié du genre humain, à savoir les dames. Et donc, quand je saurais écrire en écriture inclusive, peut-être que je me lancerais, mais déjà, il fallait arriver à écrire de cette façon-là. Merci. vous invite à la prière. Éternel, nous te remettons les hommes, les femmes et les enfants qui se trouvent en ce moment même dans cette situation dont parle Ésaïe, cette situation de guerre. L'humanité devient féroce dans les conflits armés. Il n'y a aucune guerre qui pourrait être acceptable du point de vue de notre humanité. Nous te demandons, Éternel, de pouvoir faire en sorte que nous soyons toujours près de ceux qui sont enlisés dans ces conflits, pour qu'un espoir de paix demeure. Nous te demandons, Éternel, de pouvoir nous inspirer toute prière pour soutenir par ton esprit tous ceux qui chaque jour ne reconnaissent plus aucune humanité dans le monde où ils vivent. Éternel, un psaume dit que nous sommes un peu moins qu'un Dieu. Et pourtant, dans notre histoire, tant de déchirures, tant de cruautés, tant d'intelligence mise au service du mal. Garde-nous, Éternel, de tout mal. Permet que nous ne soyons jamais du côté de cette puissance. Sois notre mesure, sois notre limite, et apprends-nous où nous devons être à la juste place. Éternel, nous te prions pour que tu nous gardes de nous servir de cette notion d'humanisme de façon fallacieuse, pour pouvoir mieux écraser l'autre, pour pouvoir mieux nous grandir par rapport à lui. Rappelle-nous que dans la rencontre, nous grandissons avec les autres, que dans la rencontre, nous découvrons une partie de nous-mêmes, et que ces autres si différents nous apprennent à quel point nous sommes parfois étrangers à nous-mêmes. Nous te demandons ton secours pour que nous ne fassions pas le mal que nous ne voulons pas faire, et que nous ayons l'audace et l'amour nécessaires pour faire le bien que tu veux pour nous. Éternel, rappelle-nous que toute religion peut devenir fanatisme. Rappelle-nous que tu n'es pas un étendard qu'on brandit au devant d'une cohorte, mais que tu es le sauveur, loin derrière le petit bétail, qui marche anonyme et qui demande la paix. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce temps de halte se termine, mais c'est maintenant dans le monde où vous vivez, ailleurs, à l'extérieur de ce temple, que continue la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous irez porter la paix, Vous irez porter l'amour du prochain. Vous irez dire que nous sommes tous faits de la même humanité. Et vous défendrez ainsi l'amour que Dieu veut pour nous dans notre monde. Soyez porteurs d'évangile. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous fait grâce et nous délivre pour que nous puissions aimer sans condition. Amen.